et que donc, pas de devoir à la maison, c'est la justice pour tout le monde, et chacun fait le devoir en classe, encadré par des professeurs. Et puis on parle un petit peu de cinéma, puisque je crois que Louise, s'il nous reste du temps, parce que le programme est chargé, mais on fera en sorte de garder quelques minutes, voudrait nous parler d'un film sur le djihad, donc on est aussi en lien avec l'actualité, hélas, c'est un sujet grave. Et puis un autre sujet grave, très différent, qui est celui du don d'organes, avec un très beau film qui est sorti mercredi dernier, le 1er novembre, mardi dernier même, exceptionnellement, c'était le mardi 1er novembre, sur vos écrans, qui s'appelle Réparer les vivants, qui est adapté d'un roman de Maëlys de Kerangal, qui a eu un grand succès, et qui présente, presque comme un documentaire, mais c'est bien un film, les différentes étapes par rapport au don d'organes, qu'est-ce que c'est, quelle est la loi, elle va changer d'ailleurs à partir du 1er janvier prochain. On parle donc bien sûr de l'actualité la plus brûlante, pour commencer, je vous écoute, je vais présenter rapidement quand même tous ceux qui sont dans le studio. On a à nos auditeurs qui j'espère sont de l'autre côté de la radio, c'est Liam, c'est Alexandre et c'est Jérémy qui sont à la technique, et puis aussi au micro bien sûr, et à côté d'eux et autour d'eux, bonjour Alyosha, bonjour, bonjour Marius, bonjour Louise, bonjour Tienel, bonjour. Et bonjour Enola.
Bonjour.
Alors qui veut prendre la parole en premier par rapport à ce duel Trump-Clinton? D'abord, est-ce que vous vous êtes intéressé, pour faire un léger retour en arrière, à ces primaires ou pas? Et puis qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Oui, Marius.
Eh bien, pour ma part, je m'y suis beaucoup intéressé et j'ai été très surpris du résultat, un résultat inattendu, et assez prévisible par les actualités et les mouvements actuels.
Donc pour toi, c'est une demi-surprise, voilà. Malgré tous les sondages, malgré tous les malgré politologues tout, qui disaient jusqu'à la dernière minute, puisqu'on peut faire des sondages jusqu'à la dernière minute, et contrairement à la France, ils ont le droit de s'exprimer jusqu'aux dernières minutes avant l'élection. Vous savez qu'en France, il y a un délai de 48 heures où la campagne s'arrête. Oui, Tiedel.
Oui, moi je me suis intéressé aussi de près à l'élection, et d'ailleurs je me suis levé tôt ce matin, cette nuit, à 1h30, 2h, pour suivre l'élection en direct. Comme vous le savez peut-être, les résultats.
Tu l'avais pour rien.
Les résultats de chaque État donc arrivent les uns après les autres. Et bon, il y a des États où c'était très serré, mais comme beaucoup de monde, je m'attendais à voir la consécration de Hillary Clinton et à la voir devenir 45e président des États-Unis. D'ailleurs, ça a duré jusqu'à 2h30 du matin à peu près, ça se passait plutôt bien. Puis après, ça n'allait plus du tout, notamment en Floride où l'écart a commencé à se creuser. Mais au début, on parlait d'écart de 90 voix, par exemple dans l'État du New Hampshire que M. Trump a gagné, à un moment il le gagnait de 90 voix par rapport à... donc ça donne une idée de quand elle s'est quand même pas pris.
C'était très serré au début et petit à petit.
Elle s'est quand même pas pris une raclée, parce que au début c'était Clinton qui gagnait le New Hampshire, mais quand il l'a gagné c'était de quelques centaines, peut-être quelques milliers de voix. Mais les États-Unis, on rappelle que à un moment Donald Trump était susceptible de gagner sans avoir gagné la majorité du vote populaire. Parce que c'est leur système qui est comme ça. À un certain stade, je ne sais plus quand, je crois que c'était à 50% du dépouillement, il y avait 50 millions de voix pour Hillary et 49 pour Trump, et c'était Trump qui avait le plus de grands électeurs. Donc c'est un système qui
est une combinaison entre les élections, les grands électeurs, Sénat ensuite derrière, qui semble être majoritairement républicain pour le coup.
Mais du coup, ça veut dire que c'est déjà, tout ça pour dire que c'est un système qui est propice aux surprises. Parce que on peut très bien être en tête dans les sondages et puis ne pas gagner la présidence.
C'est la Floride qui notamment a fait basculer.
C'est la Floride,
qui
a fait basculer parce que ça a été très long à compter. Enfin bref. C'est vrai que ça a d'abord été un choc de voir que Donald Trump était élu, puisque c'est vrai que c'est pas un candidat.
Qu'est-ce que tu lui reproches?
Très, très conventionnel. Je lui reproche de.
Pas conventionnel, c'est peut-être un peu.
Oui, il n'est pas conventionnel d'une façon.
Pas forcément rédhibitoire.
C'est-à-dire que.
Dit comme ça.
Moi, je lui reproche d'abord d'amener le débat à un niveau extrêmement bas. C'est-à-dire que il y a quand même une vulgarité de sa part qui est assez surprenante. Je lui reproche aussi son programme, ou plutôt son non-programme d'ailleurs, parce que je ne sais pas quelles sont les propositions exactement qu'il a faites, mais enfin, vraisemblablement, il n'y en a pas
baisser
beaucoup.
Baisser les impôts.
C'était en gros, oui voilà, ben, on va baisser les impôts, augmenter les dépenses et réduire le déficit, tout ça en même temps.
Et
ça,
puis
ça
avoir fabuleux. Une politique étrangère puis, un peu plus isolationniste.
Voilà, et puis après, il va ramener les jobs, comme il dit, mais on ne sait pas trop comment. Bon, voilà. Donc. Maintenant, quand j'ai vraiment réalisé qu'il était devenu président des États-Unis, quand il a fait son discours à 8h30, 9h du matin. Et là, je me suis dit, ben, c'est comme ça. C'est-à-dire que
non, il je ne l'ai pas entendu, parce qu'il y en a qui travaillaient autour de la table. Oui. Qu'est-ce qu'il a,
il a gagné
dans ce discours ?
Eh bien, justement, c'était un discours. Après, je me suis dit, est-ce que il y a deux options, ou alors il va rentrer dans le cadre, parce que de toute façon
il s'est mis dans les habits de président
parce que
déjà, ou
un peu plus parce qu'il a dit oui, il faut réunir tous les Américains, etc., etc. Il a fait applaudir Hillary Clinton notamment, ce qui montre bien d'ailleurs que ses électeurs, alors un coup ils sont prêts à lui taper dessus, par contre pour l'applaudir, bon, ils sont à la merci de leur
gourou, ça veut dire
c'est un peu l'impression que ça donne. Bon, mais bref, en tout cas, ça, et donc il avait une stature plus présidentielle, mais je me suis aussi dit, il y a deux options, ou alors il va se fondre dans la masse en quelque sorte, et il va réussir à mener une politique plus modérée, parce que le Sénat, parce que finalement, heureusement, même s'il a été contre l'establishment, etc., et c'est vrai que ce système, cet establishment, il a des mauvais côtés, mais il y a ça aussi le bon côté, que s'il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui n'est pas capable d'exercer le pouvoir, c'est un peu l'establishment qui, entre guillemets, prend la relève. C'est-à-dire que les banques sont capables de réguler une partie de l'économie toute seule, donc elles sont peut-être capable d'absorber des décisions politiques qui ne seraient pas bonnes, ou une absence de décisions politiques. Donc finalement, la deuxième réaction, ça a été s'il n'est pas capable, donc peut-être d'abord, d'une part, peut-être qu'il dirigera et qu'il fera ce qu'il a promis de faire, mais à ce moment-là, ce sera la catastrophe. Hein, c'est quand même l'agence de notation Moody's, c'est quand même des gens sérieux à pronostiquer que si son programme, ou plutôt son non-programme économique était appliqué, ce serait la récession qui s'en suivrait et 10 millions d'emplois qui disparaîtront. Donc c'est quand même pas très glorieux.
On écoute ta troisième réaction après, parce que tu en as annoncé deux. On écoute Louise en attendant. Je rappelle jusqu'au 09, merci Thiedel, 0, mais on revient, ne t'inquiète pas, avec toi, 0952 368 531. 0-952-368-531. Nous sommes en direct jusqu'à un peu plus au-delà, c'est très français ça, au-delà de 13h. Et donc d'ici là, on écoute Louise sur ces élections. Est-ce que tu es d'accord et aussi inquiète, même si je l'ai trouvé finalement relativement mesuré après avoir entendu le discours? Je pense que c'est peut-être le seul autour de la table, vous l'avez entendu, les autres? Non, vous travaillez aussi, que Thiedel qui ne travaille pas ici. Enfin, il travaillait pour CCC, donc c'est un travail à part entière. Louise,
moi je pense que... Je me demandais en fait comment c'était possible que Trump il arrive au pouvoir, parce que je me suis dit quand même son programme est pas extrémiste, mais je veux dire il est quand même assez fort. Enfin, on voit par exemple qu'il a voulu faire un mur, je sais pas s'il va le faire du coup, mais je pense que oui s'il veut respecter ses idées. Et il veut faire un mur qui sépare le Mexique de les États-Unis. Il veut le faire payer à l'État mexicain. Donc bon, ça c'est un petit peu extrême. Et je me demandais, je sais que Hillary Clinton elle est pas non plus très très clean, il y a eu beaucoup de procès et tout à l'égard de sa famille, mais d'un côté Trump c'était quand même très fort, et je pense que les Américains ils ont pas voulu voter pour une femme malheureusement, et que du coup ils ont choisi Trump parce que
peut-être c'est pas si populaire que ça non plus. Ça, on commençait à le dire, c'est-à-dire que apparemment certains n'aimaient pas Hillary Clinton. Ils la connaissent depuis longtemps aux affaires étrangères, alors c'était pas le même rôle, mais et puis peut-être beaucoup de colère dans le pays qu'on n'a pas assez jaugé. Et peut-être qu'on a sous-estimé cette colère des Américains qui même après Obama, qui a été une révolution dans le pays, qui a été plutôt un bon président, mais qui n'a pas réglé tous les problèmes de chômage, de commencer un peu avec la sécurité sociale, d'ailleurs, que veut remettre en cause Trump, en tout cas c'était non son programme sous cette forme-là. Mais il faut croire qu'Obama, malgré deux mandats, a accumulé aussi une forme de colère. Alors, est-ce que c'est face aux démocrates? Est-ce que c'est face à Obama, qui en plus a beaucoup soutenu Clinton, notamment les derniers temps? On aurait pu penser que c'était un bon point, apparemment, soit ça a été le contraire, en tout cas ça n'a pas fonctionné. Oui.
Oui, enfin, c'est vrai que Barack Obama, ce que je ne comprends pas non plus, c'est que c'est quand même le président le plus populaire des États-Unis après avoir fait un mandat de 8 ans. Sa cote de popularité il y a un mois, c'était 57%. Ça fait rêver certains. Bon, donc on se demande où sont passés... où sont passés les 57%. Et puis surtout, non, il y a une chose que j'ai beaucoup entendue cette nuit, parce que j'ai navigué entre CNN et puis les chaînes françaises, et c'est vrai qu'ils avaient l'air de dire que les sondages aux États-Unis étaient particulièrement peu fiables. C'est-à-dire qu'ils avaient un mode de sondage, je ne sais pas lequel c'était, hein, mais qui n'était pas, où il y avait effectivement des grosses marges d'erreur. Et c'est vrai.
Ça, Tiedel, pardon, t'interromps, mais ça me fait toujours rire parce que ça a été dit ce matin, c'est ça, oui. Dans la nuit. Sauf que ça fait des mois qu'on nous dit qu'on ne dit pas ça. On apprend subitement qu'ils sont trompés, qu'ils sont pas fiables. Non, qui ne l'a pas dit avant que c'était pas fiable. Ils étaient à peu près tous sur deux.
Non, mais ils ont beau ne
et
pas.
Les journalistes les suivaient.
Même avec une marge d'erreur de 3 points, quand c'était 52 contre 38, c'était Hillary qui gagnait. Donc il n'y a pas de. Donc voilà. Mais c'est juste pour dire que bon, il peut y avoir des erreurs sur les sondages de derniers.
Mais il n'est jamais passé devant,
dans
à ma connaissance,
derniers jours.
Je dis pas de bêtises, jamais dans aucun sondage, il a été devant à aucun moment.
Les derniers jours, c'est arrivé dans un sondage.
Si, j'ai dit bêtises. Ouais. Bah, si, dans certains États, mais.
Non, au niveau national, il y a la semaine dernière, en fait, quand il y a eu l'histoire des mails.
Oui. Ah, la fameuse histoire des mails de Hillary. Oui. D'accord, ça m'avait échappé. Il ne me semblait pas que c'était au point qu'il soit passé devant. Mais ça a été furtif
point,
alors.
D'un point, mais une fois qu'elle a été graciée, elle est tout de suite repassée devant.
Oui. Graciée, c'est tout à fait le mot. En tout cas, ils ont abandonné les poursuites.
Voilà, mais oui, en tout cas, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est que moi, je suis. Enfin, je ne sais pas s'il faut être très inquiet, mais pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas trop inquiet parce que je me dis que. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'establishment. Non pas prend la relève du président des États-Unis parce que c'est quand même lui qui a été élu, mais que si le président des États-Unis n'est pas capable d'appliquer son programme, ce qui sera le cas, parce que je vois pas comment il va faire, enfin concrètement, comment ça va se passer? Il va aller voir les Mexicains. Alors, il va aller voir les Mexicains pour leur dire ah ben vous allez payer, mais moi je vais construire un mur, mais puis je vais tous vous virer. Enfin c'est pas très cohérent. Donc s'il n'est pas capable d'exercer le pouvoir, parce que il faut dire qu'il a aucune expérience non plus, il est pas c'est pas un homme qui est très compétent, donc s'il est pas capable d'exercer le pouvoir, on se dit presque.
On l'a encore jamais vu au pouvoir, non?
Oui, mais oui, enfin on l'a vu au pouvoir déjà dans son entreprise, vraisemblablement
oui,
ça n'a pas
forme de pouvoir aussi.
Ça n'a pas vraiment fonctionné parce que vu le nombre de milliards qu'il a perdu et les faillites successives dont ces entreprises ont été victimes, c'est pas des résultats.
On dit parfois que la fonction fait l'homme, on va être optimiste, oui. Et que il y a une obligation de se mettre dans les habits.
C'est un peu ce dont j'ai eu l'impression pendant ce discours
déjà.
Mais en tout cas, oui, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que s'il n'est pas capable de diriger, il y a quand même cet establishment qu'on a tant critiqué, à raison d'ailleurs un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a un système, une espèce de carcan qui est un peu contraignant sur la décision politique, etc. Mais dans le cas d'une présidence Trump, heureusement, peut-être qu'il est là, parce que heureusement qu'il est là, cet establishment, pour gérer à la place du président.
Alors,
D'ailleurs, on l'a vu, ce que l'analyse de CNN au discours, parce qu'il a eu un discours notamment sur la politique étrangère qui était plutôt rassurant. Il a dit oui, nos alliés resteront nos alliés, etc. On va travailler avec tout le monde. Bon, CNN disait mais s'il a dit ça, c'est parce que ce matin les marchés se sont effondrés. Donc,
c'était pour rassurer.
Donc ça veut bien dire que s'il est incapable de gouverner, c'est ce système, cet establishment qui pourra peut-être éviter le pire des cas.
Parce qu'effectivement, il y a les États-Unis et il y a le monde, les relations qu'il va avoir avec les autres pays. À noter que Marine Le Pen a été, pour la petite histoire, la première, avant même que le résultat soit totalement définitif, mais presque certain, à féliciter Trump, et que M. Hollande, ce qui est assez rare, avait soutenu assez clairement Hillary Clinton. Alors après ça, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il y a évidemment l'obligation d'accepter la démocratie et de travailler avec Trump.
De toute façon, c'est le président des États-Unis, donc il a été élu démocratiquement, il n'a pas triché, personne n'a fraudé, il a mené une campagne qui était d'un niveau lamentable, mais il faut croire qu'il a su parler aux gens, donc j'ai envie de dire, il a été élu, donc tant mieux pour lui, tant pis pour Hillary, elle n'a pas été assez, elle n'a pas été assez, d'une certaine façon, elle n'a pas été assez bonne. Elle aurait probablement été une meilleure leader que Trump, mais dans sa campagne, elle n'a pas été assez bonne. Donc il faut le reconnaître, il a été élu, mais maintenant il va falloir travailler avec lui.
Il y a une photo qui a été retweetée ce matin, qui était assez voilà, frappante, où il a été en pleurs dans les bras des membres de sa famille, je crois, ou de son QG, je ne sais pas. Mais avant même l'officialisation des résultats, assez... donc elle sentait que...
Oui, mais c'était, bah, c'est évident, parce qu'ils ont des... Mais de toute façon, c'est pas surprenant. Enfin, ça a été une campagne d'un an et demi qu'elle a menée. Ça lui a coûté quand même, enfin pas à elle, mais enfin, sa campagne a coûté 500 millions d'euros quand même, c'est pas rien. Sachant qu'en France, le coût maximum de la campagne, c'est 20 millions. Donc c'est pour,
quand il n'y a pas de dépassement.
Quand il n'y a, oui, a pas de dépassement de fausse facture. Mais, non mais voilà, c'est pour dire. Donc ça a été compliqué de lever des fonds, ça a été compliqué de faire campagne comme ça. Parce qu'en plus, on s'est aperçu qu'elle était malade en même temps qu'elle faisait campagne. Donc il y en a qui ont trouvé ça scandaleux. Moi, j'ai trouvé que c'était d'autant plus, ça démontrait d'autant plus sa capacité à gouverner, parce que si elle est capable de mener une campagne aussi éreintante. Mais bon, il faut croire qu'elle n'a pas su.
Elle n'a pas été assez convaincante au final.
Elle
n'a
pas su parler aux gens.
Merci, Thiadel. Alexandre. Et Louise,
ouais, est-ce que c'est. Qu'elle n'a pas été.
Parle bien en face du micro,
ouais.
Alexandre, c'est toi le technicien.
Ouais, je sais.
En co-chef, en triple co-chef, parce qu'il y a trois co-réalisateurs.
Mais après, pour avoir voté pour Donald Trump, est-ce que les Américains ne sont pas racistes? Parce que. Il y a quand même ce matin très tôt, donc il était.
Hillary n'était pas noire. Hein, mais...
Oui. Non mais
non, je cherche.
Raciste.
Pardon.
Oui, non, si j'ai compris. Non, parce que c'est quand même des propos racistes qu'il a tenus. Et
ah oui, d'accord.
Ce matin, Donald Trump, oui. Ce matin, il y a quand même l'ex-leader du Ku Klux Klan, donc Ku Klux Klan, ouais, qui a félicité Donald Trump sur Twitter, donc quelque chose de public, enfin. Après, est-ce que les Américains réalisent pas que quand même c'est très extrémiste, quoi. Enfin, est-ce qu'ils sont vraiment racistes? Après, ce qu'on peut relever, c'est que
pas
dans
qu'on puisse dire ça, on peut dire que les Américains
non,
sont racistes.
Non, les Américains, j'ai...
sont nombreux
mais
quand même.
C'est pour montrer quand même que dans les grandes villes,
voilà.
Enfin, on ose espérer qu'ils sont pas tous machos,
si on regarde,
racistes.
Si on regarde attentivement la carte
des États,
ouais, c'est ça. On voit bien que dans les grandes villes, c'est souvent Hillary qui remporte, et dans les dans toutes les campagnes, c'est Donald Trump, quoi. Donc
la côte ouest beaucoup Hillary, la côte c'est le, oui, c'est ça. Ouais. Et la côte est dans la Floride, le sud-est, c'est plutôt Trump en gros. Après il y a le milieu, c'est un grand pays. Mais bon, c'est assez logique en général, les pays, les États comme la Californie, et la Floride, il y a plus de gens âgés, donc sans être dans la caricature, qui ont peut-être plus eu tendance à voter Trump. Louise,
je voulais dire que oui. Selon le...
Et puis on écoutera un auditeur.
Oui,
mais juste... Alexandre va s'en occuper. Vas-y, commence.
Oui, juste selon son programme, c'est vraiment tout ce qu'il dit. C'est quand même, on l'a étudié en anglais notamment, c'est misogyne, il y a beaucoup de racisme envers les étrangers. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut... Enfin, comment une personne qui pense des choses aussi extrêmes puisse avoir été élue présidente des États-Unis. C'est quand même énorme, président des États-Unis, c'est un pays qui est très important.
Alors on dit souvent l'homme le plus, ou la femme la plus puissante de la planète.
Et là, on a
une après, c'est une expression,
qui est raciste,
mais pas qu'une
à
formule.
À la tête d'un pays très important, je ne comprends pas. En fait.
Et Nola, j'allais faire un mix entre Alyosha et Nola. Et Nola et Alyosha, non, pas de...
Oui, pourquoi pas, mais...
pourquoi pas.
Allez.
Et puis après, on
ressent Louise. Oui, alors moi ce que j'en pense c'est que, bon, pour l'instant je m'inquiète pas trop parce que tout président des États-Unis a d'abord un temps d'adaptation avant sa prise réelle.
Tout président tout court, hein.
Oui,
de toute façon.
Avant sa prise au pouvoir. Et donc si Trump fait exactement ce qu'il a promis et ne fait pas trop d'écart, oui. Peut-être qu'on peut espérer qu'il a finalement comment dire,
raison.
Oui, raison, et que finalement ça peut être un président qui avant tout garde son pays en sécurité entre guillemets, on va dire. Même si c'était un peu extrême, effectivement.
Après, quelle est la part de show? Il y en avait beaucoup, la part de bluff de son côté et le côté un peu plus raisonnable, probablement.
Oui.
le discours qu'a entendu Tiadel semble rassuré dans ce sens-là. Bon, après, c'est qu'un discours, il faut voir la suite, c'est
oui,
sûr.
Voilà.
Mais bon, c'est quand même important, le premier discours est rassembleur.
C'est un homme politique, il ne faut pas l'oublier.
Oui, mais d'un autre côté... Mais ce que je voulais dire, c'est... T'as fini, oui.
À qui tu parles,
oui, non, mais parce que voilà. Oui, non. Ce que je voulais dire, c'était par rapport à ce que disait Alexandre tout à l'heure. Est-ce que ceux qui votent pour lui sont racistes, etc. Effectivement, il y a ce qu'avait appelé Hillary Clinton un peu maladroitement, mais elle avait pas tort. Le panier des pitoyables, c'est-à-dire les racistes, les homophobes, les misogynes et compagnie. Bon, c'est pas très bien dit. Ça a fait un peu débat, mais dans le fond, je pense que c'était vrai. Et puis il y a aussi des électeurs républicains qui peut-être dans les sondages et jusqu'au dernier jour n'ont pas voulu voter Trump parce qu'ils ont beau être républicains, ils n'ont pas envie d'avoir Trump à la tête de leur pays ni à la tête de leur parti parce qu'il ne représente pas leur parti républicain à eux, mais à la fin ils n'ont peut-être pas pu se résoudre non plus à voter pour un candidat démocrate. Mmh. Parce que moi, nous on connaît des gens dont je présume qu'ils sont plutôt républicains et qui nous disaient on n'a pas du tout envie de voter pour lui. Mais d'un autre côté, moi j'imagine mal ces gens-là voter. Donc peut-être qu'il y a eu ça aussi, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, au moment où il faut cocher le nom sur le ticket, ben peut-être que ça a été dur de voter pour
les observateurs, comme on dit, encore il y a quelques jours, disaient que les femmes et les noirs seraient peu nombreux à voter. Et apparemment, ils ont été
plus nombreux que prévu à voter.
Alors, il est rangé, je ne sais pas trop dans quelle catégorie d'ailleurs, parce que c'est compliqué de faire des paquets comme ça.
Oui. Et puis, je voulais dire une deuxième chose par rapport à ça, c'est que j'ai observé cette nuit que d'habitude le Texas c'est un État très républicain, c'est-à-dire que Mitt Romney, John McCain et George Bush, alors à plus forte raison George Bush, ils avaient littéralement écrasé leurs adversaires au Texas parce que les Texans c'est entre guillemets des vrais républicains, non pas que des faux républicains, enfin ils sont pas. Il y en a beaucoup qui ne sont pas complètement tarés non plus. Ils ne sont pas prêts à voter pour n'importe qui. Bon. Et donc, tous les candidats républicains, jusqu'à présent, ils faisaient entre 70 et 80% des voix au Texas. Alors que là, Trump a fait 50% et Clinton 45%. Donc ça montre bien que quand même, tous les républicains... Au Texas, oui.
C'était pas 50 et 40, c'était 47 et 48.
Non, mais au Texas, je parle de l'État du Texas. Mais dans l'État du Texas, parce que ça marche par État, leur élection, Trump, Clinton a failli gagner le Texas à un moment. C'est quand même assez historique, parce que ça veut dire qu'il y a des républicains, les républicains traditionnels, qui n'étaient pas prêts à voter pour Trump. Donc,
Marius,
il y a deux côtés. Est-ce qu'ils ont...
Tiadel s'emballe, mais il faut que vous l'interrompiez un peu, parce qu'il connaît bien le sujet, il n'a pas dormi de la nuit, donc il est totalement dans l'euphorie de l'insomnie. mais il est documenté. Marius.
Eh bien, pour ma part, je pense que ce n'est pas un vote qui s'est fait pour Hillary ou pour Trump, mais ça s'est surtout fait par défaut. Après les affaires... des mails d'Hillary, je pense que beaucoup d'Américains ont perdu foi en Hillary.
Je crois que c'est vraiment ça qui a pu déclencher.
Je pense qu'ils ont pu s'orienter par défaut vers une personne qui peut leur paraître plus fiable.
Parce que c'était connu avant,
moins
ça, c'est ressorti au moment de la campagne.
Oui, comme tous les scandales, ils ressortent pendant la campagne.
Régulièrement.
Oui.
Mais je pense que ça a surtout été un vote par défaut. Et malheureusement pour les démocrates qui ont demandé aux gens d'aller voter, car le taux d'abstention était très très faible, il me semble, c'était peut-être pas la bonne stratégie à adopter, puisqu'ils ont dû perdre beaucoup de voix, la voix des gens qui ne savaient pas trop et qui, du coup, par défaut, ont voté pour
les
Trump.
Américains ont beaucoup voté, on les a vus même dans des laveries, enfin, des images un peu surréalistes, dans tous les endroits publics possibles. Il y avait des files d'attente très 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 longues, effectivement. Et je pense que ça fait partie d'une ligne de surprise. Il y a eu beaucoup plus de mobilisation que prévu.
Mais Et puis c'est cette histoire des mails, c'est quand même, c'est, là encore, c'est, ça fait partie du génie de la communication de Donald Trump, parce qu'il a dit, ah, c'est le plus grand scandale depuis, depuis l'affaire du Watergate avec Nixon. Bon, ça avait mené à la... à ce que Nixon soit viré. Enfin, cette histoire de mail, qu'est-ce que c'est ? On lui reproche juste d'avoir été imprudente et d'avoir envoyé des mails professionnels depuis son téléphone personnel qui n'était pas sécurisé. Voilà, c'est tout ce qu'on lui reproche. Et dans ces mails, il n'y en a aucun qui tient du secret. Alors, soi-disant, elle en aurait supprimé quelques-uns. Mais
tous bah, c'est le directeur, ça fait plusieurs nuits, en fait, qu'il ne dort pas.
Exactement, c'est le directeur... Non, mais c'est même le directeur du FBI qui a dit ça. Après, c'est le directeur du FBI qui a dit ça, après avoir dit que...
C'est un ami proche de Tjedel.
Oui, tout à fait. Donc,
son oncle.
J'ai fini de lui raconter n'importe quoi, Tjedel. Tu es très crédible, mais enfin, il y a des limites, quoi.
Non, mais... Donc,
non, tu as lu ça.
Donc,
effectivement, il y a eu des déclarations du directeur
puis,
du FBI.
Et puis, cette histoire de mail, il n'y avait rien concrètement. Donc, ça a été monté complètement en sauce par M. Trump, travers une communication très habile. D'ailleurs, elle-même a aussi eu une bonne communication, parce que, comme vous le savez peut-être, ils ont le droit de faire des publicités à la télévision. Donc, elle en a fait quelques-unes qui étaient aussi bien faites que celles de Trump. Mais Trump a beaucoup joué dans ses publicités là-dessus, les histoires de mail, etc., que soi-disant c'était un scandale extraordinaire, alors qu'en fait c'est rien du tout. C'était une petite imprudence, mais bon, tout le monde l'a fait. D'ailleurs, tous les secrétaires d'État précédents l'avaient fait, Condoleezza Rice et compagnie. Donc,
Louise, on te laisse le mot à la fin sur Trump-Clinton. De toute façon, ça n'est que le début, hein, puisqu'on est parti pour 4 ans, c'est-à-dire 5, c'est en France, 4 aux États-Unis.
Moi, je voulais dire que les Américains, ce sont des personnes qui n'aiment pas être. Pas trompé, ça fera un petit jeu de mots avec Trump, mais
ils aiment bien tromper, visiblement.
Non, je veux dire qu'ils n'aiment pas être trahis, et du coup, ils vont voter pour la personne qui les a pas trahis, et ils pensent que c'est Trump. Après, parce qu'il n'y a peut-être pas eu autant de...
Rien fait,
oui, voilà, c'est ça, ils n'ont pas vu le pouvoir, ce qu'il y avait vraiment dans Trump, hein, dans sa personne, et vu que Hillary Clinton les a trahis à cause de cette histoire de mail, qui est peut-être pas si grave que ça, mais peut-être que les médias en ont fait énormément. Je sais pas si c'est dans l'intérêt de Trump ou pas, ce qui m'étonnerait quand même que les médias fassent ça, mais enfin, il y a eu beaucoup de foin, j'allais dire, mais c'est pas une expression très...
Beaucoup de bruit.
Voilà, beaucoup de bruit sur cette histoire, alors qu'au final, c'est pas si grave, et c'est ça qui l'a peut-être discrédité beaucoup auprès des auditeurs.
Vous auriez voté Trump, vous auriez voté Clinton, appelez-nous, au 0952. Bon, c'est trop tard, hein. Vous n'êtes pas américain, mais on est là pour débattre. Enfin, si, peut-être qu'il y a... Allez, soyons fous, peut-être qu'il y a des Américains, nous sommes quand même sur RDOA.fr, qui fête ses 5 ans d'antenne, j'en profite pour rappeler ça. Ce week-end, il fêtait les 5 ans de RDOA sur 107.5, et peut-être qu'il y a des Américains qui nous écoutent à l'autre bout du monde. Ou des Américains en France, ça existe aussi.
À 7h20 du matin à New York.
C'est vrai qu'il y a un petit décalage. Donc des Américains en France, ils sont peut-être plus occupés par les élections encore, mais enfin, justement, nous en parlons.
Encore de faire la fiesta pour Monsieur Trump.
0952 368 531, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec Tjedel, avec Louise, avec Enola, elle n'a pas encore trop parlé, mais on va lui donner la parole en premier, ça lui apprendra. Enola, Liam et Jérémy, allez, on va commencer par vous sur les migrants. Donc, qu'est-ce que vous pensez du sort des migrants? Est-ce que la France va réussir à les intégrer? Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est du court terme? Est-ce que c'est du plus moyen terme? Comme d'habitude, je vais jouer l'avocat du diable. Vous savez que c'est un peu mon rôle ici, sans me prononcer personnellement, mais c'est à vous de vous exprimer. Certains ont dit, on a entendu ça, que on n'arrivait pas à trouver de logement, on n'arrivait pas à trouver d'emploi pour les Français qui sont nés en France et qui sont là depuis 40 ou 50 ans. Est-ce que c'est du populisme, ça? Et qu'à eux, on va trouver, on a commencé à trouver des logements, même si c'est un peu des logements, on va dire, regroupés de fortune. Donc voilà pourquoi ce qui semble possible, au moins à court terme, pour les migrants, ne l'est pas pour les Français. Est-ce que c'est abusif de dire des choses pareilles? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que quelques hommes et femmes, beaucoup d'hommes célibataires, on insiste bien là-dessus, je trouve dans les médias, il y a peut-être aussi des intentions derrière, des hommes érythréens, célibataires, et qui se retrouvent comme ça, parfois dans de petites villes, petits villages, Alex, bah, c'est pas loin d'ici, vous connaissez. En même temps, c'est pas non plus des hordes de personnes qui arrivent. Donc est-ce que c'est... est-ce qu'on va pouvoir les intégrer? Est-ce que c'est le but? Est-ce qu'ils sont là de manière transitoire? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de... Parce que c'est pas fini, hein, malgré le mur qui n'est pas encore construit de Trump. Et puis, de toute façon, nous, on est en Europe. D'abord, c'est pas gagné que ça s'arrête. Et voilà, les bateaux sur les mers, malheureusement, avec les risques aussi qui vont avec, risquent de continuer à arriver jusqu'aux portes de l'Europe et de l'Italie en particulier. Frontalière de la France. Qu'en pensez-vous? Tout le monde, mais peut-être Liam, donc, Jérémy, Enola. Vous connaissez Alex ou des gens qui habitent à Alex? On a eu plusieurs reportages à la télévision ou plusieurs témoignages dans les journaux. Apparemment, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Le maire était franchement contre. Certains locaux étaient très partagés. Enfin, les locaux étaient partagés. Non, pas d'opinion là-dessus? Ou de façon plus nationale, si vous voulez pas en parler sur le plan local. Pensez que c'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut Trump. Les garder en France? Trump, sa solution aujourd'hui, c'est Trump. De toute façon, c'est sa journée, hein, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il a la baraka. Espérons pour les États-Unis que ça dure.
Il a la
par rapport au chômage. Il a la baraka.
Ah, d'accord.
C'est, non, c'était pas un jeu de mots avec Barack Obama. Non. Il a la baraka. Il a beaucoup de baraques, ça, il a beaucoup de maisons.
Pas très heureux.
La baraka. Oui, est-ce qu'on doit laisser partir en Angleterre, puisque c'est l'éternel problème avec le Brexit en plus maintenant? Est-ce qu'on doit laisser les Anglais s'occuper de ceux qui veulent aller chez eux? Et voilà, est-ce qu'on doit les laisser à Calais? Bon, ben ça pour l'instant, ça a été démantelé. Mais enfin, ils sont en train de commencer à revenir un peu, d'après ce qu'on a compris. Ou si c'est pas à Calais, ailleurs. Enfin bref, quelle est la solution? À Paris, on avait des Parisiens très inquiets il y a quelques semaines, parce que le lieu Stalingrad était... envahi, écouter certains riverains lorsqu'ils sortaient de chez eux, ils voyaient des gens, c'est vrai que c'est peut-être un peu particulier, qui habitaient sous des tentes et voilà, alors ça n'a pas duré, ça a été démantelé. Bref, c'est quoi la solution? Je vous sens muet sur ce sujet-là, beaucoup plus que... Bah alors... tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, comme on dit, si, il y a toujours des solutions, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, comme disent les politiques optimistes. Non, tu penses qu'il n'y a pas de solution?
Non, je sais pas, mais je trouve que...
C'est des êtres humains quand même, il faut bien...
Bah oui, mais je trouve qu'on ne les traite pas comme des êtres humains.
Bah donc c'est quoi la solution pour les traiter comme des êtres humains? C'est un peu ça ma question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux ou de différent? Pour l'instant, on les accueille quand même relativement bien, je sais pas, mais on les accueille. Bien. On en accueille un certain nombre. Bah si, parce qu'on leur a trouvé des centres, on les a enlevés de dehors, ce qui était quand même pas la solution idéale. Et ils sont répartis dans différentes villes. Après, les maires n'ont pas droit au chapitre et ils protestent beaucoup parce qu'ils trouvent que quand même le maire devrait être au courant de... et
pas apprendre d'un moment. J'ai juste pas compris pourquoi on les envoie pas en Angleterre, pourquoi on les laisse pas passer en Angleterre. Ça, j'ai pas compris.
Parce que les Anglais ont pas plus envie que nous de
les
avoir, je crois.
Et que Calais est mal situé par rapport à la France, on va dire, et que voilà, c'est la porte d'entrée. Et que jusque-là, on avait des accords très proches avec l'Angleterre. Alors là, ça va peut-être changer avec la Grande-Bretagne, avec le Brexit. Mais
l'espace Schengen n'est plus là aussi. Ça influence. Enfin, il n'a jamais été là d'ailleurs.
Est-ce que le Brexit va changer les choses? Est-ce qu'on va les laisser? On commence à entendre des politiques dire ça. En gros, bah, débrouillez-vous maintenant, puisque vous avez voulu quitter l'Europe. Donc assumez jusqu'au bout. Non, mais voilà, il y a les échanges économiques et puis aussi, pardon, mais les échanges de migrants. Enfin, c'est maladroit, mais
aussi. Les échanges humains.
Les échanges humains, oui, dit comme ça, c'est particulier, mais voilà, c'est pas une matière commune, les êtres humains quand même. Hein. C'est pas une matière économique. Enfin, encore que c'est aussi de l'argent, c'est bien ça le problème. Voilà, un emploi, un logement. Alexandre? Jérémy? Alyosha. Ah, ils étaient tellement à fond sur Trump que, si je puis dire, que alors là, les migrants, ça sèche. Si vous voulez, on peut continuer à parler de Trump, mais bon, c'est plus proche de nous quand même, il y a les migrants.
Enfin, c'est lié aussi. Hein.
Oui.
On peut.
Indirectement. Alexandre? Marius? Mais. Il y a le maillot d'équipe de football, non, France, pas d'équipe en fait, de la France.
Ouais, bon.
Voilà. C'est son côté Trump, il est un peu nationaliste, et bon, enfin.
Peut-être pas nationaliste, n'allusons pas.
Ça va pas lui plaire si je dis ça.
Non,
il
mais
aime la France et le foot.
Pour reprendre.
Chauviniste.
Chauvin. Pour reprendre le cas d'Alex et du lieu où ils ont été accueillis.
Pas Alexandre, la ville d'Alex.
Oui. Quand même.
Parce que Alex est un cas, mais bon, c'est une autre, une autre émission.
Prochain épisode de CCC. C'est non. Ça. Et bah, le centre d'alcooliques et de drogués, il me semble, qui a été réhabilité en centre d'accueil des migrants.
À Paris?
Non, à Alex.
Ah, Alex, pardon, Alex. Parce qu'il y a eu des centres aussi à Paris.
Mais ce centre a fermé pour des raisons économiques. Et la France étant en crise, d'où vient cet argent?
Ça, c'est ce qu'ont dit certains habitants d'Alex. Notamment.
Voilà. Il y a aussi eu le cas du référendum d'Alex qui n'a pas été pris en compte par...
parce qu'il n'était pas vraiment légal, d'après ce que j'ai compris, en tout cas.
Il n'était pas légal, certes, mais on leur a imposé valeur, un choix, et je ne trouve pas ça très démocratique d'imposer des choses.
Bah, le ministre de l'Intérieur a décidé que le président, oui, c'est vrai, de répartir, de manière, j'imagine, raisonnée, rationnelle, dans différentes villes, mais c'est vrai que les maires ont appris ça quelques jours avant, hein, pour ainsi dire. Oui, Tiedel.
À nouveau, deux choses. pour reprendre Louise. L'expression de Louise.
Deux seulement alors. Parce que Louise Trépigne.
Il me semble qu'on fait beaucoup de potins pour pas grand chose là encore.
Ah, des potins, on évite de faire ça. C'est beaucoup pas notre
de,
genre,
quoi. Beaucoup de foin, pardon.
En dehors. Mais pareil,
on fait,
non plus.
On fait beaucoup de foin.
Les autres peut-être, mais pas on nous. Fait, pas oui. C'est ça la classe.
Donc on fait. Non mais on. On, pas CCC, mais en France, d'accord. Parce qu'on voit beaucoup d'hommes politiques alors qu'ils n'en ont que pour les migrants. Donc, alors, il y en a pour certains, il n'y en a pas assez, pour d'autres, il y en a trop. On se focalise autour de ça. Il faut rappeler quand même que c'est 30 000 personnes, hein, c'est rien du tout, et qu'ils ne sont même pas encore tous arrivés. Donc,
tu crois que ça va rassurer ceux qui sont inquiets.
En termes de nombre, c'est encore assez lamentable. Enfin,
à l'échelle de la France, du pays tout entier,
à l'échelle de la France,
6 millions.
Oui. Donc, et puis en plus, on parle de coûts pour l'État qui s'élève à 80 millions d'euros. Le budget de l'État chaque année, c'est 500 milliards d'euros. Donc, c'est une goutte d'eau. Donc, on ferait mieux de se préoccuper, par exemple, des effets bénéfiques que peut avoir sur la croissance un apport de nouvelles personnes qui arrivent, parce que on va avoir un problème démographique en France dans quelques années. C'est le problème de l'Allemagne que tente de régler d'ailleurs Madame Merkel. Ça lui vaut beaucoup de critiques, mais au moins elle a le courage de le faire. Parce que bon, d'abord, c'est vrai qu'il y a le côté humanitaire.
Elle a changé un peu d'avis quand même.
Oui, elle a changé un peu d'avis, mais enfin pas complètement. Et bon, d'un côté, il y a le côté humanitaire. Enfin, il y a aussi le fait que d'un point de vue démographique, pour l'Allemagne, il faut avoir des jeunes et pas on a une population vieillissante. Mmh. En France, en France, on va avoir le même problème dans 5 à 10 ans. Bon,
ça dépend de toi, Thierry.
Ensuite, comment?
Bah, si tu fais des bébés.
Ah ben bah, oui, voilà. Non mais oui, ben bah, justement. Non mais et puis on parle aussi de gens qui viennent pour s'installer. Donc qui dit des gens qui viennent pour s'installer. Alors même si dans un premier temps ils vivent d'allocations de l'État, ils finissent par être obligés de si tant est qu'ils trouvent du travail, ils finissent par être obligés d'investir, parce que il y a un moment, il faut bien s'installer, avoir une maison, des meubles, etc. Donc c'est des dépenses importantes qui boostent la consommation. Donc en Allemagne, par exemple, on estime que ça fait que ça fait 0,3 points de croissance en plus sur l'année. Donc c'est quand même pas négligeable. Voilà.
Je rappelle quand même que les demandeurs d'asile, avant qu'ils l'obtiennent, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas accès au travail.
C'est pour ça qu'il faut accélérer les procédures de demande d'asile pour que ce soit.
Les procédures sont
déjà simples à faire.
Pour que ce soit.
C'est
la justice, c'est la loi.
Et faire la différence entre les demandeurs d'asile véritables, ils sont nombreux, et ceux qui viennent pour des raisons économiques, c'est encore notre problème.
Il faudrait qu'on ait les moyens de. Qu'on ait les moyens de police et de gendarmerie au niveau administratif pour s'occuper de ça plus rapidement. Parce qu'effectivement, évidemment, ce n'est pas normal du tout que des gens restent un ou deux ans, que ce soit pour ces gens ou pour la communauté d'ailleurs, sans papier ni rien, en attente d'une réponse. De la même manière, moi je trouve assez dommage que des gens qui travaillent qui travaillent très dur parfois, et qui sont étrangers, ne puissent pas avoir de papier alors que ça fait des années qu'ils sont en France. Mais ça, c'est un autre problème que la demande d'asile. Donc,
oui.
Donc et pourtant, c'est un autre problème, mais qui est traité en même temps que le reste. Parce que quand on parle d'immigration, on fait une espèce de grand micmac, et puis alors on mélange tout, les réfugiés, les étrangers qui travaillent, les étrangers qui ne travaillent pas, les terroristes, les demandeurs d'asile, et ça finit par devenir incompréhensible. Donc il faut bien séparer tout ça. Alors certes, donc pourquoi je parlais des gens qui travaillent dur, etc. Parce que certes, c'est deux problèmes séparés, mais quand même, des gens qui sont demandeurs d'asile et qui sont capables, parce qu'ils le sont tous, de travailler, de faire des choses, qui veulent s'impliquer, je vois pas pourquoi ça serait refusé, alors que il y a toujours des tricheurs, évidemment, c'est toujours comme ça. Il faut essayer de faire qu'il y en ait le moins possible, mais bon, c'est difficile. Mais évidemment, il faut s'assurer aussi, parce qu'on est dans une période où c'est un peu tendu, donc il faut s'assurer aussi que ceux qui rentrent, ce sont bien les bonnes personnes, mmh. Et ce sont bien ceux qui, je dis pas qu'on soit obligé de travailler extrêmement dur, etc., mais ce sont bien ceux qui sont de bonne volonté et qui peuvent et qui peuvent apporter quelque chose, que ce soit d'ailleurs même culturel, mais économique, culturel, plutôt que ceux qui peuvent poser des problèmes. Voilà, mais je pense que ceux qui peuvent poser des problèmes sont minoritaires et on se focalise beaucoup sur eux aussi.
Louise, on te laisse une fois de plus le mot de la fin sur ce sujet.
Je voulais dire que d'un côté, peut-être que ça peut être... je pense que les arguments contre ces migrants, c'est que les personnes pensent que ça va être un poids pour l'économie, pour la France, etc., qu'on y consacre trop de... je sais pas, d'argent ou quoi. Mais la devise de la France, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. On est censé être solidaire avec les personnes qui le demandent, même si là, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'on peut trouver la place, même si ça veut dire qu'il faut qu'on fasse peut-être des aménagements. Et il y a peut-être pas déjà d'emploi pour les personnes françaises, mais on peut sûrement trouver des alternatives. Et à mon avis, c'est possible que tout se passe très bien, mais que tout s'enclenche et se mette en place.
Donc
pour
générosité.
Que... voilà.
Alors, on va faire une petite transition. On va parler et finir. Pardon, Alyosha voulait faire vraiment le mot de la fin.
Non, je voulais dire que déjà, c'est intéressant ce que tu dis, Louise, mais... il y a aussi donc des personnes qui travaillent pour aider les migrants. Donc effectivement, ça demande déjà pour eux des salaires, à moins que ce soit
du bénévolat.
Du bénévolat. Donc effectivement, c'est intéressant. Mais si ça se trouve, ils peuvent pas tout prendre en compte l'administration, si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'ils doivent gérer en même temps le problème des migrants, mais aussi des emplois pour les personnes qui s'occupent des migrants. Tout ce qui est, par exemple, docteur, infirmier, aide-soignant, etc. Et peut-être même, je ne sais pas moi, des personnes pour leur préparer des repas et aussi pour ceux qui doivent construire des logements. Effectivement, ça doit faire beaucoup de personnes impliquées et j'imagine que l'État n'a pas de quoi payer en plus les migrants et aussi pour leur trouver un travail.
D'accord, Alyosha. Merci. Donc tu nuances un peu ce que disait Louise.
Mes propos.
En fait.
Oui.
Yadel va vraiment.
Ce sera le tout petit mot de la fin. Non, c'était juste pour dire que. À entendre certains, je ne parle pas d'Alyosha parce qu'il y en a qui sont bien plus extrêmes. Alors on a l'impression.
Pire qu'Alyosha.
On a l'impression que. Alors bon, c'était. Je sais plus. C'était bon. Nadine Morano, c'est pas une référence. Je suis désolé. Enfin, c'était Nadine Morano qui disait.
Alyosha, Nadine Morano qui dit.
Non, mais. Non. C'est pas ce que je veux dire. Mais simplement, je dis, c'était Nadine Morano qui disait. Ah oui, les migrants, on les loge dans mon vestiaire construction, on les loge dans un château. Le château, c'était un centre de vacances qui était complètement tout vieux. Donc, il faut pas exagérer non plus. Ils sont pas, c'est pas comme si on leur déroulait le tapis rouge et qu'ils soient garantis qu'ils aient tous un emploi.
On vit leur sort et pas
mais,
non plus.
Voilà. Mais bon, alors évidemment, on est dans des périodes de difficultés. Mais enfin, juste le mot de la fin de la fin des fins. Je pense que du sujet.
Attends, ils vont partir en tant que auditeurs. Je pense
aussi que malgré nos difficultés, c'est aussi ce serait aussi une forme de cohérence que de les accueillir, parce que si on était intervenu en Syrie, si on avait fait quelque chose en 2011 et qu'on s'était pas dégonflé tout à coup, alors certes parce que les États-Unis ont refusé d'intervenir, mais si on n'avait pas eu cette attitude là, peut-être qu'il y aurait moins de migrants. Donc il y a un moment, il faut peut-être aussi qu'on prenne nos propres responsabilités et qu'on voit le désordre qu'on a pu causer par notre non-intervention ou peut-être par ailleurs par notre intervention et dire ben ça c'est de notre responsabilité, donc on assume et on porte les conséquences.
Nous avons bien compris. Ah voilà, Enola veut dire quelque chose. On n'arrivera pas à passer au sujet prochain. Non, c'est pas grave, c'est vous les patrons ici. Vas-y Enola.
Non mais c'est juste que t'as raison, mais enfin... La France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est notre devoir de les aider.
Parle bien en face du micro.
Oui, pardon. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Alors, c'est notre devoir de les aider. C'est tout.
Enfin, il y a d'autres pays qui sont des droits de l'homme. Mais... on n'est pas le seul. C'est la fameuse phrase de Rocard, on la ressort tout le temps, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Bon,
mais... Oui, bah, c'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas accueillir
évident.
Tout le monde.
Mais, mais on peut quand même accueillir Madame Merkel. Si Madame Merkel peut accueillir 1 million de réfugiés, on peut quand même en accueillir au moins la moitié.
Donc Louise parlait de générosité, elle était pour largement en prendre la moitié. Je voulais faire une petite transition, on parlera des devoirs à la maison juste après pour finir, sur ce film donc, qui est sorti le 1er novembre, Réparer les vivants. Adapté d'un roman. En fait, c'est un jeune homme qui fait du surf, qui est amoureux depuis peu, qui a 17 ans, qui est au lycée et qui a un accident de van, qui revient dans un van avec deux autres de ses camarades. Il n'a pas mis sa ceinture et donc le problème se pose, la question se pose. Les parents viennent d'apprendre ce drame et évidemment, il était en bonne santé. C'est la mort cérébrale qui n'empêche pas que les poumons, le cœur et beaucoup d'organes soient encore valides et vivants, en quelque sorte. Et donc, les parents acceptent après une réflexion évidemment, mais pas trop longue, puisque c'est le problème du don d'organes, pour qu'il soit encore valide et transplantable, il faut absolument, oui, frère, on peut dire ça comme ça, que la décision soit prise dans les quelques heures.
Que ce soit valable.
Que ce soit valable, exactement. Et donc voilà, c'est un film qui montre vraiment tout le cheminement depuis le fait qu'on apprend la mort évidemment de son fils, qu'on nous demande de lui enlever des organes. Il refuse par exemple dans le film, et c'est souvent le cas, et on peut comprendre, c'est lié à plein de choses intimes, personnelles, d'ailleurs subjectives. Ils ne veulent pas qu'on prenne ses yeux par exemple, ils sont d'accord pour le cœur. Et donc ce cœur va vivre dans le cœur d'une femme qui est mère de deux enfants, deux adolescents aussi. Et voilà, c'est un joli film je trouve, parfois un peu dur parce qu'on montre vraiment parfois des détails presque chirurgicaux, mais c'est ça aussi la transplantation, bien sûr c'est de la médecine. Et c'est aussi beaucoup d'humanité. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne ? On va pas, il faudrait faire une émission expressément là-dessus. On l'avait déjà un petit peu parlé, d'ailleurs, il y a quelques temps, si je m'en souviens bien. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne ? Est-ce que vous savez que la loi va changer à partir de janvier ? En gros, je vous fais juste en 30 secondes. Au moment où on parle, on considère qu'il faut l'accord de la famille. Le problème, c'est que la famille, souvent, ne sait pas ce que pensait le jeune homme ou quelqu'un de plus âgé. Hein, ça fonctionne aussi pour des gens plus âgés. Après, ça pose des problèmes d'organes, puisqu'à partir d'un certain âge, certains organes ne sont plus valables. Mais ça peut aller jusque très tard. Donc si évidemment on a une carte sur son portefeuille, il existe une carte de don d'organes qui n'a pas de valeur officielle d'ailleurs, mais qui montre quand même qu'on était d'accord ou qu'on a parlé de ça, ce qui est très compliqué de parler ça à table avec ses parents ou ses proches, mais ça peut se faire. Et ces films sont faits pour réfléchir à ce genre de choses. Eh bien oui, mon fils était d'accord et n'avait jamais imaginé mourir à 17 ans, mais il semblait être d'accord par générosité, parce que je crois que c'est ça, pour que quelqu'un d'autre vive à travers lui. Et si on ne le sait pas, bah parfois les parents peuvent quand même dire oui, et parfois s'y refusent totalement. À partir de janvier, la loi change, c'est important, c'est-à-dire qu'on considère que tout être humain, c'est-à-dire qu'on inverse la chose, est donneur d'organes potentiel. Et à moins que vraiment la famille s'y oppose et qu'on ait fait savoir qu'on était contre, donc c'est le contraire de maintenant, il faut savoir, faire savoir qu'on est contre et pas qu'on est pour, eh bien on est susceptible d'avoir des organes transplantés.
Moi je trouve ça génial comme loi qui soit passée. Parce que y a tellement de personnes qui nécessitent des organes, qui sont entre la vie et la mort, qui ont des listes d'attente très longues souvent, ce serait très très bénéfique que beaucoup d'organes puissent être mis en circulation, en don quoi, pour aider ces personnes, alors qu'il y en a qui les gardent juste parce qu'ils ont vécu des choses et qu'ils veulent pas les donner. C'est, je dirais pas que c'est de la oui, c'est pas de l'égoïsme.
Bah, parce qu'on attend quand même la mort d'un proche, on nous demande dans les 5 minutes, ou presque, il faut comprendre aussi ça, voilà, qu'on va lui enlever quelque chose. C'est quand même son corps. Alors, on a un corps, on a une âme, je sais pas, mais en tout cas un esprit.
Oui, sauf que l'âme, elle continue normalement. Enfin, ça, c'est
oui,
des avis très partagés.
Oui, mais c'est ça.
Pour
c'est
moi,
ça,
mon
débat.
Point de vue, ça continue. Et c'est pas les organes, c'est l'esprit, etc. Bon, ça, c'est très varié comme avis.
Tu vis encore un peu à travers quelqu'un d'autre. C'est beau,
oui,
dans l'idée, c'est très
beau.
Oui,
c'est super beau. Et c'est vrai que des fois, c'est assez dur pour les familles de l'admettre. Je sais qu'il y a un cas qui est en cours, je crois encore, où c'est un enfant ou une personne adulte, je ne sais plus, qui est donc enfant de deux parents, normal. Et il est dans le coma depuis très longtemps. Et les parents, bon, ça, c'est pas toujours le même cas, mais c'est quand même que lui... Enfin, je vais faire le lien. C'est que lui, il voulait que si jamais qu'il était dans le coma un jour, se faire débrancher. Mmh. Et ses parents ne voulaient pas.
Plutôt la fin de vie, l'euthanasie.
Oui, sauf que c'est pareil, je veux dire, c'est si les parents veulent pas, ils peuvent dire que l'enfant, ils peuvent dire ah bah non, il voulait pas, alors qu'en fait, il le voulait. Et ça, personne jamais pourra le savoir s'il a pas fait de truc de test écrit. C'est pour ça que c'est bien si la loi passe, qu'on soit obligé de donner ses organes si on n'a pas dit qu'on voulait pas le faire. Ça, c'est. Moi,
c'est une question
très,
un peu personnelle
très, très
et vraiment très intime et subjective. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais grosso modo, là, si on faisait un sondage sur un sujet un peu particulier, mais est-ce que en souhaitant évidemment et en touchant 10 fois la table qui est devant nous, je ne sais pas si elle est en bois, mais qu'évidemment ça n'arrive pas. Mais voilà, si vous deviez disparaître plus tôt que prévu, est-ce que vous seriez d'accord pour que vos organes soient pris?
Bien sûr.
On entre un peu, c'est pas du chirurgical, mais bon, c'est aussi un peu ça, mais, et de l'intime encore. Tous vos organes, ou est-ce que vous feriez, parce que ça sera possible, des exceptions? On pense souvent aux yeux, parce que voilà, c'est probablement par là que bah, par définition, le regard et la personnalité de quelqu'un passe, entre autres, ou pas.
Ou pas, ouais.
Bah, statistiquement, moi, les poumons, le cœur, les gens ont un peu moins de mal, en tout cas l'entourage. Voilà, l'autre est mort.
Je trouve que c'est un peu bizarre quand même, parce que même si on est dans le coma, on a les yeux fermés. Quoi.
Ouais, mais je pense qu'on imagine, pour parler concrètement, on va être un peu trivial, mais enfin, c'est ça la réalité. Le corps après que les parents vont voir, sans les yeux, je pense que c'est ça. Le cœur, ça ne se voit pas. Il y a une cicatrice, on voit très bien ça dans le film, grosse cicatrice, mais c'est qu'une cicatrice. Le corps de son fils ou de sa fille sans ses yeux, je pense que. Voilà, alors c'est sûrement bien fait après, parce que c'est fait avec beaucoup de tact, de soins, et voilà, je dis que c'est du chirurgical, bien sûr. C'est aussi humain et il y a plusieurs personnes qui s'occupent de ça et on prépare le corps. Mais bon, vous, a priori, sans restriction.
Mais juste, moi, je voulais dire une chose.
Les parents, ça leur arrivera pas.
Oui, moi, les yeux, ça me chante pas trop. Mais
bah, en fait, je comprends pas les gens. Ils sont d'accord pour donner le cœur ou les organes vitaux. Enfin, les yeux aussi, mais. Mais le cœur, c'est ce qui fait vivre une personne. Alors que les yeux, enfin, je veux dire, il y a des aveugles qui ont encore les yeux, mais ils ne voient pas, et ça marche très bien. Quoi.
D'ailleurs,
c'est incompréhensible. Oui. Un petit peu.
D'ailleurs, myope comme je suis, mes yeux ne vaudront probablement rien du tout, donc de toute façon.
Dernière chose, mais du film dont tu voulais parler en 2 minutes.
Pour ma part, il y a certains organes pour lesquels je ferai une exception. Je reviens sur les yeux, qui. Pour moi, sont assez importants. Je donnerai mes organes volontiers.
Sauf les yeux.
Sauf en cas de, si quelqu'un en a vraiment besoin, mais sinon, je préférerais vraiment les garder.
C'est toujours des gens qui nécessitent, malheureusement.
Je préférerais vraiment les garder.
Il y a beaucoup de gens qui attendent sur la liste. Beaucoup de gens sur la liste attendent.
Et ça changerait quoi?
Ouais, tu changerais quoi de les avoir, enfin, c'est... pour ta famille, ça ferait quoi?
Mais c'est juste une question de croyance. Ah non, c'est juste pour moi. Je sais que je ne vais pas revivre. Mais
des fois qu'il y a une vie après la mort, tu veux dire?
Non. C'est juste que pour moi, mes croyances, mais presque, je pense que les yeux sont. Important, la porte de l'âme peut-être.
Ah oui.
On dit plutôt le miroir de l'âme.
Parce qu'il y a
le
plus miroir. De voilà. En Europe, on est plutôt bien placé, si on peut dire ça comme ça. On est plutôt un peu plus généreux entre guillemets que d'autres pays d'Europe. Mais bon, il en manque encore parce qu'évidemment les attentes sont très 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 longues. Tu voulais dire un mot sur un autre film, sur le djihad, c'est ça?
Sur Le ciel attendra.
Une petite fiche la plus synthétique possible.
Oui, alors Le ciel attendra, c'est un film qui est paru. Le ciel attendra, oui. Vous m'avez dit qu'il est paru récemment. Sauf que moi j'ai vu qu'il était sorti en 2015, mais c'est varié comme avis. Et en fait, c'est sur l'histoire donc de la radicalisation, de l'embrigadement des jeunes par le djihad. Et c'est une fille qui est de nature normale. Bon, c'est pas un adjectif très précis, mais qui a pas d'histoire. Je veux dire, elle est pas malheureuse, elle est joyeuse, elle a la joie de vivre, elle est bonne à l'école. Enfin, c'est une personne commune. Et à un moment, il y a sa grand-mère qui meurt, et là, elle va commencer à parler avec des inconnus, et du coup, parce qu'elle est très triste, et du coup, elle veut évacuer sa tristesse, et donc elle va commencer à parler avec des inconnus sur les réseaux sociaux, etc. Et ces personnes vont s'engouffrer dans le fait qu'elle soit triste, donc elle a une brèche dans sa personnalité. Ils vont s'incruster dans cette brèche. S'engouffrer plutôt. Et au final, elle va se faire embrigader, mais elle va en parler avec une psychologue qui est une vraie psychologue, donc qui joue un vrai rôle, qui est une psychologue qui est.
Psychologue de métier.
Quoi ?
Psychologue de métier.
Oui, je veux dire qui est musulmane, elle est dans la foi musulmane, mais elle en parle et elle arrive du coup à voir les choses d'un autre angle qu'une psychologue qui serait. C'est pas chrétienne ou n'importe quoi. Et du coup, elle arrive à en parler vraiment. Et son rôle, c'est un rôle vraiment réel. Enfin, c'est son vrai métier, donc elle arrive à le jouer parfaitement. Et enfin, après, tout ça, c'est ce que des personnes qui l'ont vu m'ont dit, parce que moi, je l'ai pas vu, mais j'ai très envie de le voir.
Et là, c'est possible, parce que ça s'est passé. D'accord. Donc, chers auditeurs, vous avez du boulot pour le mois prochain. Regardez Réparer les vivants et regarder.
Ouais, c'est vraiment, ça instruit beaucoup.
Le ciel attendra, c'est ça. Mmh. Et c'est éventuellement, vous nous appellerez, enfin, au 0952. Quelqu'un nous appelait tout à l'heure pour dire que ça fonctionnait pas ou des choses comme ça, non?
Non, c'était juste pour, il voulait pour pas avoir intervenir. Diane de,
il était timide.
De RD1.
Ah d'accord, c'était pour avoir...
c'est à propos de la nuit de la radio.
Quelqu'un donc. Rien donc, c'était indépendant de nous. 0952-368-531. Je sais qu'il y a des lycéens qui nous écoutent là, enfin, ou alors ils m'ont dit des bêtises, parce qu'ils m'ont dit on va vous écouter. Ils m'ont dit on n'a rien à faire, on va vous écouter. J'ai pris ça presque comme un compliment. Et donc j'avais fait appel à Grégoire, par exemple, au hasard, qui m'a dit ça, et qui est en première, s'il ne prend pas son nom de famille. Tout le monde l'aura reconnu, en tout cas, parmi les lycéens autour de la table. Donc Grégoire, j'espère que tu es encore là. Et que nous avons été passionnants, donc forcément. Donc n'hésite pas, 0952-368-531. Grégoire, veux-tu conserver les devoirs à la maison? Ou comme on en parle déjà depuis pas mal de temps, avec un fait nouveau, c'est qu'en Espagne, les parents d'élèves font la grève depuis quelques jours des devoirs. Il y a que les parents disent à leurs enfants, en dégonflant le monde à l'envers, ne faites pas vos devoirs.
C'est génial comme concept. Super.
Alors à l'école primaire, c'est interdit officiellement dans les textes depuis quelques années. À peu près personne ne donne pas pour autant, n'a décidé de ne plus donner de devoirs. Au collège ou lycée, c'est tout à fait légal. Et par pratique même, à l'école primaire, on en donne un peu. Est-ce que vous pensez que c'est une égalité, c'est présenté comme ça, une inégalité, une injustice, parce que certains se font aider, d'autres pas. Certains ont un ordinateur, selon les cas, et d'autres pas. Enfin bref, il y a des possibilités de se faire aider ou pas chez eux. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des études encadrées, ça existe un peu, avec des professeurs, et que tout le travail à la maison se fasse pas à la maison, en fait, l'équivalent du travail à la maison, mais en classe. Ou en tout cas dans des études dirigées le soir. Qu'en penses-tu, Louise? Est-ce un peu démagogue ou est-ce que c'est une bonne idée?
Je veux juste savoir si on parle des devoirs au niveau d'exercices notés ou d'exercices juste comme par exemple des exercices de mathématiques qu'on donne pour le lendemain.
Non, tous les travaux tout court, mais en particulier notés, parce que ça a plus de poids. Évidemment, l'injustice, elle est plus criante. Si on considère qu'il y a injustice, quand il y a des écarts de notes importants et qu'on suppose que c'est parce qu'il y en a un qui a été aidé par papa, maman, ou grand frère, grande sœur, oui, Tiedel, qui
oui, s'aide tout seul. Là encore, moi, je pense que qu'il faut arrêter avec ces histoires de évidemment que parce qu'évidemment qu'il faut réduire les inégalités, mais d'un autre côté, ben on pourra jamais les effacer complètement, et c'est pas comme ça qu'on va les effacer. Là, qu'est-ce qu'on fait tout simplement parce que on enlève un petit peu d'une certaine façon l'occasion à des
Ne monte pas le micro, Tiedel. Je te sens énervé.
L'occasion. Non, mais parce que. Non, mais j'étais. Oui, je sais, c'est pas. Bref.
Les techniciens sont inquiets. Donc... non, mais. Les sont inquiets, regarde.
Bref. Oui. Donc moi, je me demande jusqu'où ça ira à ce moment-là. Parce que si. Alors, à ce moment-là, il faudrait peut-être mieux commencer par dire que ça sert à rien d'avoir 40 000 livres par matière dont on ne se sert jamais dans l'année. Je veux pas être provocateur. Enfin, dans certaines matières, c'est un peu le cas.
Mais du coup, c'est quoi ton vrai avis sur la question?
Donc, oui, mais non, mais je j'y arrive. Donc il vaudrait mieux commencer par ça plutôt que par des pseudo-inégalités qui n'existent pas vraiment, parce que le but premier, c'est quand même pas que les parents fassent les devoirs des élèves à leur place, premièrement. Et puis deuxièmement, on va finir par enlever toutes les occasions de C'est quand même du nivellement par le bas, c'est-à-dire que comme soi-disant certaines personnes n'ont pas l'occasion de faire les devoirs aussi bien que les autres ou je sais pas quoi, ah ben donc on va donc plus personne ne fait de devoirs comme ça. Bon, mais pour certains c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être bien d'un point de vue pédagogique pour certains de faire des devoirs, ça peut les aider à s'entraîner, parce que je suis désolé, mais
quand
oui voilà c'est ça, d'approfondir de, et puis c'est même au-delà du devoir qui bon c'est un peu la forme du problème, mais le fond c'est aussi d'une certaine façon la capacité, la curiosité, la volonté d'approfondir, d'aller plus loin et d'apprendre, de se cultiver un peu en dehors de l'école. Et moi, honnêtement, je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire pour réduire les inégalités que ça, et que si on voulait réduire les inégalités, il vaudrait peut-être mieux, par exemple, au lieu de supprimer les devoirs pour tout le monde, il vaudrait peut-être mieux dire on fait des heures où, je sais pas moi, il y a un professeur, comme ça se fait dans certains pays, évidemment je parle sous le contrôle du professeur qui est ici, mais il y a un professeur à des heures qui peut faire de l'aide aux devoirs, pourquoi pas, mais...
Il y a déjà un peu des études dirigées ou des accompagnements personnalisés.
Oui voilà, mais enfin, accompagnement personnalisé, c'est pas vraiment le c'est pas vraiment ça, mais des gens qui soient, des professeurs qui soient disponibles à certains moments, en dehors des heures de cours, enfin non pas en dehors des heures de cours, mais en dehors,
oui, en plus,
n'est-ce pas, exactement. Donc voilà, 37 heures payées 37 ou 39. Non, bref, ça on verra l'année prochaine, ce sera. Voilà. Mais voilà.
Les autres, Yadel, oui. Merci. Y a plein... C'est bizarre. Alors sur les migrants, moyens, mais alors là sur les devoirs.
Ça nous touche vraiment, ça nous concerne énormément.
C'est normal. Même si c'est un peu Alexandre, Liam, non.
Non.
Jérémy, bah plus personne lève le doigt. Si, si, Jérémy avait quelque chose à dire. Jérémy, Enola et Louise, c'est ça ? Jérémy.
Eh ben, moi, je suis plutôt d'accord avec Tiedel et je trouve que. Faudrait arrêter de chercher toujours les inégalités de n'importe où et ils se prennent la tête pour n'importe quoi. Parce que je trouve que les devoirs, c'est un moyen pour les élèves de pouvoir approfondir. Et de progresser, parce qu'en fait, on va pas à l'école pour avoir des bonnes notes, mais surtout pour progresser, pour s'ouvrir au monde, pour apprendre plein de choses.
Quelle maturité, ça, Jérémy. Alexandre, finalement, un truc à dire. Alors, on n'a pas encore entendu Enola, Alexandre et Louise, on va le faire de suite, mais pour l'instant, ça semble être assez consensuel, quand même. Hein. Et bon, vous avez des lycéens modèles qui sont contents d'avoir des devoirs, quand même. Contents, c'est pas le mot, mais qui comprennent le sens de...
Ouais, c'est ça, c'est avoir le sens.
Écoute,
quoi.
Alexandre.
Ouais, enfin... J'ai vraiment pas l'impression que c'est pour réduire les inégalités, mais plutôt faire, comme tu disais, vraiment un nivellement, Tidel. Et puis, c'est vrai qu'au-delà des notes pures qu'on peut avoir, c'est aussi la responsabilité que ça donne d'avoir des devoirs. Même, c'est quand même une minorité d'élèves qui ont la chance d'avoir leurs parents pour les aider. Et aucun parent fait les devoirs de leurs enfants, donc... C'est vraiment responsabiliser, ouvrir l'élève à... apprendre seul, quoi, sans avoir la...
Puis, sur les devoirs, ça va peut-être améliorer, effectivement. Pardon, Alexandre, mais ouais. Est-ce que... C'est un peu ce que disait Thierry tout à l'heure, il n'est pas allé jusqu'au bout, je trouve, donc je me permets d'essayer d'aller jusqu'au bout, vous êtes d'accord ou pas. Si vous avez des parents qui lisent beaucoup ou qui ne lisent pas du tout, des parents qui ont fait des études, qui en ont fait moins, vous ne pourrez pas le changer, ça. Même s'il n'y a plus de devoirs à la maison, vous aurez un environnement culturel, éducatif, qui, de toute façon, sera... inégal, mais est-ce que c'est si grave que ça ? Heureusement que les familles ne se ressemblent pas et qu'il y a non pas des inégalités mais des disparités. Alors, effectivement, c'est un peu ça donc tu voulais dire. J'ai l'impression que tu allais conclure par ça, mais dis-moi si je me trompe tout à l'heure.
C'est ça que j'allais dire, mais je vais peut-être laisser les autres.
Louise, puis on va laisser
faire le vrai
Louise
mot de la
fin. Et Enola, je crois, c'est ça ? Louise et Enola, Enola et Louise, allez, Enola, on l'a moins entendu. Et c'est décidément encore Louise qui va avoir le mot de la fin. Ah, Tiedel, bon, d'accord.
Non, j'ai oublié de ce que je. Vas-y. Ah. La première.
Je voulais dire que c'est assez partagé comme sujet parce que d'un côté, les notes qu'on peut avoir en faisant des DM, donc des devoirs à la maison, ça peut, si par exemple, je sais pas, il y a des personnes qui sont stressées quand ils font des devoirs en cours, donc avec le professeur, avec toute la classe, etc. Et les devoirs à la maison peuvent. Réguler un peu, même si les coefficients sont en général plus élevés sur les devoirs surveillés donc en classe que ceux en devoirs à la maison, mais ça peut influer sur la moyenne et du coup ça peut aussi aider les personnes qui ont un peu des difficultés à justement à se sentir mieux et à être plus satisfait de son travail. Même si, et du coup, oui, moi je suis d'accord avec toutes les personnes qui ont parlé, c'est important pour moi d'avoir des devoirs, même si bon, des fois je m'en passerai bien, mais c'est quand même important pour s'ouvrir et même pour pouvoir en parler aux gens s'il y a des moments où on comprend pas. C'est vrai que des fois on peut demander de l'aide à des personnes qui sont dans notre entourage autres que les élèves avec qui on travaille tout le temps et je sais pas, des personnes qui peuvent apporter d'autres points de vue, d'autres
et puis une aide ponctuelle, c'est pas forcément faire le devoir complet à sa place comme on disait tout à l'heure, et
oui,
puis
voilà.
C'est aussi une manière de s'enrichir, d'avoir d'autres façons d'expliquer,
oui, d'autres
ça
points de
aussi servir
vue
à ça. Bon, évidemment, après, il y a la note, la plupart du temps, mais comme disait Jérémy, justement, même si, évidemment, l'école française en particulier est faite de beaucoup de notes, et qu'on évalue là-dessus, c'est encore un autre débat qui est un peu le même, mais voilà, il y a des classes, il y en a au collège du Dois, 6e notamment, si je dis pas de bêtises, sans notes. Bon, après, est-ce que c'est la solution ? C'est un autre débat.
On avait déjà parlé
d'ailleurs une fois, et d'ailleurs, c'était très partagé, si je me souviens bien. Ça semblait pas être la solution non plus, la panacée pour vous, à ceux qui étaient là autour de la table, puisqu'il y a quand même quelques petits nouveaux. Et Enola ?
Alors.
Et puis on va prendre congé de nos auditeurs parce que là il faut qu'ils aillent manger, nous aussi. Enfin eux ils peuvent manger, c'est l'avantage. Ici je ne balancerai personne, mais non, hein. À peu près personne ne mange en même temps que ne parle. Et Enola.
Les devoirs aussi, ça aide à avancer le cours du coup. Ça permet des fois, il y a des profs qui nous donnent des devoirs Ça nous donne un avant-goût de ce qu'on va faire, par exemple. En gros, voilà.
Préparer, oui.
Mais ça fait avancer le cours. Donc, si on enlevait les devoirs, ça veut dire qu'il y aurait plus de choses à faire en classe. Et du coup, ça alourdirait même peut-être les journées. Mmh. Il rajouterait des heures de cours. Et non, franchement, non, pas à
l'idéal, ça aurait tout pouvoir faire pendant la journée de travail. Voilà. C'est des journées de travail longues.
Oui, très
parmi bien. Les plus longues d'Europe, voire du monde. Beaucoup de vacances entre. Petites vacances ou moyennes vacances, si, hein, ça c'est objectif. Mais par contre, les journées sont très longues. Alors c'est pour ça, c'est l'argument de certains. Ils ont des journées longues et en plus, ils ont du travail à la maison. Oui. Il faut reconnaître aussi parfois que voilà, quelqu'un qui veut vraiment faire tout bien, correctement, ça fait des journées et des soirées chargées et des week-ends encore chargés. Alors voilà, vous êtes en pleine forme, mais il faut aussi savoir se détendre un peu. Et... Mais bon, supprimer totalement, c'est peut-être pas, si je comprends bien, autour de la table, la solution bonne. Oui. Donc, arro sur les Espagnols et les parents espagnols qui font des bêtises, c'est ça en ce moment d'après vous. Quel exemple, hein. Ils disent ne faites pas vos devoirs aux enfants. Ah, c'est plutôt drôle, je trouve. Enfin, un exemple bizarre, drôle dans tous les sens du terme, étrange et rigolo, un peu, seulement. Cocasse. Mais... Tiedel.
Vous disiez tout à l'heure que j'avais pas j'avais pas complètement développé mon argument. C'est vrai.
Je me suis permis, Tiedel.
Non, mais c'est vrai.
Mais comme je l'ai fait à ta place, je suis peut-être pas obligé de le refaire.
Non, mais vous avez donc rappelé qu'effectivement tout le monde ne venait pas n'avait pas les mêmes origines ni la même famille.
Il y aura toujours des injustices de toute façon.
Et donc, mais c'est même pas la question, mais c'est que. Et donc, on a l'impression qu'on voudrait qu'il y ait un standard et qu'il y en ait qui soient mieux que les autres. Mais enfin, qu'il y ait un standard, que donc tout le monde fasse pareil, puisque après tout, il y en a qui seraient privilégiés là pour ça. Mais si vous n'êtes pas fils de gens qui ont fait ou fille de gens qui ont fait des études, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul et que c'est un peu ce que ça sous-entend aussi quelque part. Et que donc vous ne serez pas capable de faire vos devoirs. Au contraire, il faut dire que tout le monde, et bon là, ça relève d'un autre problème, qui est que le fait que c'est un peu trop académique, et c'est qu'il n'y a pas peut-être assez d'emphase sur les métiers manuels, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat maintenant. En tout cas, moi je trouve qu'il faudrait... Enfin, le fait de dire que donc il faut pas faire de devoirs, etc. Donc d'abord, ça revient à dire qu'il y en a qui sont moins bien que les autres. Puis aussi, ça comme le disait très justement Alexandre, ça déresponsabilise les gens. C'est-à-dire que après tout le monde devrait avoir effectivement égalité des chances. C'est-à-dire tous les horizons leur sont ouverts, mais ce qui devrait ouvrir l'égalité des chances, c'est l'école et c'est l'éducation et puis c'est le travail, mais c'est pas les parents, parce
qu'il devrait pouvoir faire sortir du milieu social si tant est qu'on le considère
qu'on veuille sortir du milieu social, parce que là encore on a l'impression qu'on considère que c'est la panacée d'être bon, et c'est pas forcément le cas non plus.
Alors on a eu un ministre, donc on pourrait dire verre à moitié vide, un seul ministre verre à moitié plein, on en a eu un qui était fils d'ouvrier et qui a été ministre de l'Éducation nationale.
Non, mais c'est pas la question.
Mais non, mais c'est un exemple. Oui. C'est possible.
Non, mais c'est vrai.
On sait bien que statistiquement, il y en a pas beaucoup.
C'est pas le fait que c'est pas possible, mais c'est le fait que ça demande plus.
Effectivement, Tiedel, ça arrive quasiment jamais.
Quand il y a des députés dans certains milieux,
d'hommes de pouvoir qui viennent d'un milieu ouvrier, très peu.
Dans certains milieux, ça demande plus de travail, mais justement, c'est
peut-être pas en supprimant les devoirs que de toute façon ça va se régler.
C'est pas en supprimant les devoirs que ça va se régler. Et il faut pas. C'est vrai qu'il faut pas se mentir. Quand on vient des banlieues, c'est peut-être plus de travail de faire d'occuper des postes à responsabilité que pas, mais il y a un côté, c'est comme ça, il faut essayer de le régler autrement que plus personne ne fait rien d'abord, parce que voilà, il y a ce côté donc qui responsabilise les gens, et puis deuxièmement, ben après tout le monde n'aspire pas non plus à la même à faire la même chose, et je pense que quand on est convaincu qu'on veut faire quelque chose, on se donne les moyens de le faire, devoir ou pas, mais que justement les devoirs, c'est un moyen de travailler vers quelque chose qu'on veut faire ou pas, et d'apprendre à travailler et à se surpasser en quelque sorte.
Et chers auditeurs, vous êtes sympathiques, mais nous ne faisons pas standard ici. Si, nous faisons standard, mais pour CCC. Arrêtez d'appeler en dehors d'eux, le pauvre Liam fait standardiste téléphonique. Voilà, nous avons beaucoup de compétences, mais nous laissons à ceux qui sont plus compétents que nous et responsables de Radio Diwa répondre. Bon, on va vous laisser, vous inquiétez pas. Mais vous nous appelez uniquement 0952, là encore pendant 5 minutes, et après on vous laisse 368-531. Ça, le numéro, vous le connaissez, ça fait au moins 2 ou 3 qui appellent, je vois au fond du studio. 0952, mais pas pour les bonnes choses, appelez-nous pour dire ce que vous pensez des devoirs d'Hillary, de Donald.
Donald ? Oui, c'est ça, j'avais un doute sur le... Oui, bah, Donald. On n'a pas parlé de Walt Disney, hein. J'espère que vous avez suivi jusque-là, c'est pas ça le sujet. C'est l'autre, Donald. 0952-368-531. Allez, Louis, je crois que finalement, c'est vraiment à toi que ça va revenir. Encore une fois, ça va pas plaire à Tienel, mais tant pis. La battle, Louise.
Il faudrait qu'on fasse une émission à deux jours.
C'est ça, je crois. Ouais. Et les autres compteront les points. On comptera les points, nous.
Par contre, je prends pas le rôle de Donald Trump.
Tu préfères Hillary, d'accord, ta vie privée ne nous regarde pas. Allez, nous regardons. Tu te grimeras en Hillary, ça peut faire une jolie émission. Et elle en Donald. Enfin, non, là, peut-être pas envie non plus.
Non plus. Et
quelle impopularité, ce Donald, pour quelqu'un qui vient d'être élu, quand même.
Pour finir, il y a quand même une nuance qu'on peut apporter pour les devoirs à la maison. C'est que souvent, je sais que je vois des amis, moi j'arrive à m'avancer, mais il y a des personnes, c'est un peu plus dur pour eux de le faire. Et il y a des quantités phénoménales de devoirs à faire à la maison. Et je comprends qu'il y en a qui abandonnent. Enfin, il y a des personnes qui ont peut-être pas l'envie, le temps, qui font d'autres choses à côté. Et je comprends qu'il y en ait beaucoup des fois qui ne les font pas. Et c'est assez dur d'un côté. Je pense que les personnes qui ne les font pas ou qui ne prennent pas le temps de le faire seraient pour justement cette suppression des devoirs à la maison. Mais après, c'est vrai que ça aide beaucoup pour le travail personnel. Et de toute façon, quand on arrive sur les études supérieures, le travail personnel est très important. Et c'est bien de commencer un peu à en faire autrement que dans les classes. Et le soir, chez soi, ou même en études pour ceux qui sont en internat, c'est important d'arriver à bosser, à travailler tout seul. Et même, des fois, à faire des recherches en plus, des cours, etc. Ça, c'est pas tout le monde, mais... C'est important quand même, je trouve, pour après.
Enfin, en tout cas, vous seriez au pouvoir, vous seriez Donald ou Hillary en France. Vous ne décideriez pas de proposer cette loi. Mm. Je ne sais pas si c'est les députés qui voteraient ça, je ne pense
non,
pas.
Non, on ne déciderait
mais
pas.
Enfin,
non.
En tout cas, ministre de l'Éducation nationale, de changer les choses. Eh bien, je vous remercie. L'émission a été très, 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 très riche. Mm. On se revoit le premier mercredi du mois de décembre. Alors, le 1er décembre, c'est un jeudi. Donc, 7 et 1, nous retrouvons le 8, mais sauf que c'est un mercredi. Donc le 7 décembre, on va y arriver. Le 7 décembre, le 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida. Peut-être qu'on en parlera si vous le souhaitez.
Ah oui.
On verra. En avant-première, vous avez déjà peut-être le premier sujet, mais c'est vous qui choisirez. Chers auditeurs, restez fidèles à Radio Diwa. C'est donc C5A. On a essayé d'être digne de notre tâche de réflexion citoyenne avec ces jeunes gens qui ont beaucoup de choses à dire et des choses très pertinentes et qui s'intéressent à l'actualité. Vous voyez, il y en a même qui ne dorment pas la nuit pour regarder les élections. Chapeau bas et merci de continuer à vous intéresser à l'actualité, d'argumenter. Vous allez être tout chaud, tout prêt pour ceux en tout cas qui, c'est-à-dire à peu près tous ceux qui sont autour de la table, sauf deux. Pour le bac de français, vous allez devoir vous exprimer.
Oui, on a le bac déjà tous les cartonné, autres bacs. Hein.
Enfin, tous les autres bacs tout court, parce que le seul oral obligatoire, c'est le français, c'est pour ça. Passez une bonne journée sous la neige. Non, ça y est, je regarde à travers les vitres pour vous montrer qu'on est toujours en direct. Je crois que la neige s'est arrêtée. C'est très humide. Louise va faire enlever un petit peu la buée. Vous voyez, il est 13h24, on ne triche pas et il neige toujours un peu, c'est ça.
Il
les toits sont blancs.
Il neige beaucoup moins.
On nous appelle. Non, alors j'espère, si c'est un auditeur, on le prend. Autrement, on le laisse. Non, pas sur la route. Ah, il veut intervenir. Ah, bah bravo,
ouais
hein. C'est le moment d'intervenir. Ouais, on allait laisser l'antenne. Enfin, merci quand même. Allô ? Allô, allô ?
Allô ?
Oui ?
Allô ? Alors, normalement, on met le micro sur le haut-parleur du téléphone.
Non, ça a changé, c'est plus comme ça. Enfin.
Ah, on fait plus comme ça. Bah, ça a marché pourtant. Pardon, Alexandre. Il va finir par partir, l'auditeur. Allô ? Allô ? Allô, monsieur ? Jeune homme, monsieur. Allô ? Vous nous entendez ?
Allô ?
Oui, bonjour.
Très faiblement.
Oui, vous pouvez vous exprimer. Vous voulez dire quelque chose sur les... Nous, on vous entend bien, maintenant. Sur les devoirs, c'est ça ?
Ouais.
Vous êtes un lycéen ?
Pardon ?
Vous êtes un lycéen ? Non ? Vous avez une voix jeune ?
Non, je suis un père de famille, mais je voulais
d'accord.
savoir...
D'accord, un jeune père de famille.
Me rappeler, parce que je suis pas en illimité sur mon portable. Hein.
Est-ce que vous pouvez, pardon ?
Me rappeler à mon numéro qui doit s'afficher parce que je suis pas en illimité.
Je sais pas si on va pouvoir faire ça parce que nous on maîtrise pas le téléphone totalement et ça va être compliqué. Ou alors sur un téléphone.
Je suis
posez votre question, On va pas faire dépasser votre forfait.
Une question, c'est une intervention quoi.
D'accord, bah allez-y, on vous écoute.
Voilà, c'est les gens qui reviennent du travail, par exemple, après 4, 6 ou 8 heures de boulot. N'ont pas de devoirs à la maison. Et il se trouve que...
Ça dépend des boulots.
Je trouve que les devoirs à la maison ne respectent pas le rythme biologique de l'enfant. Mmh. Et ça le surcharge. Et qu'il devrait y avoir une heure ou deux de permanence encadrée où là, ils feraient leur devoir avec des profs à disposition si on ne comprend pas.
C'est un petit peu ce qu'on a effectivement dit tout à l'heure. Alors après, ça dépend des métiers, il faut nuancer quand même. Il me semble qu'il y a des métiers, il y a certains cadres qui amènent du boulot à la maison, hein, ou plein d'autres métiers sont prêchés pour ma paroisse.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des instituts
c'est qui amènent du boulot aussi à la maison, mais c'est
pas la majorité des professions qui le font.
Mmh. Et effectivement, par contre, ce qu'on a dit tout à l'heure, les journées sont chargées, ça c'est vrai. Et donc vous parlez de, par rapport au rythme biologique
aussi,
de
l'enfant. Voilà, ça reste, moi, je serais un peu réformiste sur l'éducation nationale. Mmh. Et il y a par exemple une, je ne sais pas si vous connaissez les conférences TEDx.
Non.
Bah, c'est des mini-conférences de 10-12 minutes où des intervenants exposent un petit peu leur façon de voir le monde sur différents thèmes. Mmh. Et j'ai vu des interventions de gens qui étaient dans le corps enseignants qui, eux, étaient complètement opposés au devoir à la maison. Voilà, pour eux, c'est une surcharge de boulot pour l'enfance et ça sert juste à le dégoûter, surtout dans les premières années de sa scolarité. Et que... effectivement, une fois qu'on arrive à la fac, peut-être c'est acceptable.
Peut-être pour
sinon,
les plus petits, oui, effectivement. Parce que si vous avez entendu autour de la table, quand même...
Dans les années collège et primaire et tout ça, c'est un non-respect de l'enfant, quoi.
Oui. Autour de la table, alors c'est pas des petits, effectivement, c'est des lycéens. Vous avez quand même vu qu'ils étaient assez unanimes pour le maintien des devoirs à la maison. Ça peut éventuellement surprendre, mais à partir d'un certain âge. Je pense que vous avez peut-être fixé un âge. Oui. Mais de toute façon, c'est normalement inscrit dans les textes qu'à l'école primaire, les devoirs ne sont plus donnés. Je sais bien que dans la réalité,
d'accord,
ça n'est pas le cas.
Ça, c'est une bonne idée, ça.
Mais ça fait déjà quelques années. Hein,
sauf que au moins au collège, quoi.
Peut-être continuer jusqu'au collège. Bah, on vous remercie. Vous avez des enfants de quel âge? On ne va pas vous faire exposer votre forfait, mais juste, vous avez des enfants de quel âge?
12 et 15.
D'accord, oui, donc vous êtes dans des moyens, quoi. Moyens grands, on va dire. Il y en a un au lycée, un au lycée et l'autre au collège, c'est ça? Ou les deux au collège?
Ils sont tous les deux au collège.
Les deux au collège, d'accord.
De Buddy.
Bon, donc vous êtes un dix mois qui nous appelait.
Bah, c'est en troisième et l'autre en cinquième.
C'est très gentil de nous appeler, en tout cas, de nous écouter. Vous nous écoutez régulièrement? C'est la première fois.
Bah, tout le temps.
Tout le temps. Bah. Alors il faut nous appeler régulièrement.
Dans ma voiture, dans ma cuisine, partout.
Très bien. Eh bien, c'est très sympathique à vous. Et voilà, j'espère.
Donc, je m'appelle Frédéric et moi je trouve que voilà, les devoirs dégoûtent les enfants de l'école en fait.
Enchantez-vous, dit Louise.
Au moins dans les années collège. Peut-être après, effectivement, c'est responsabilisant pour eux de pouvoir bosser tout seul et de valider un petit peu leurs acquis. Mais sinon, je trouve ça juste trop contraignant et écœurant pour eux, quoi.
Vous avez encore une minute ou on abuse de votre forfait?
Je vais être sur la fin, mais
juste pour écouter, on vous remercie déjà d'avance et juste pour écouter Tiedel qui veut vous dire un petit mot.
Mais très rapide, il sait faire.
Oui, évidemment.
Un lycéen de terminale qui vous parle.
Oui, moi je trouve que effectivement il faut du temps pour les temps libres, etc. Mais ça pose pas la question des devoirs en eux-mêmes. Ça pose la question de l'organisation du temps scolaire. Est-ce qu'il faudrait pas faire comme nos amis anglais, allemands,
espagnols,
avoir moins de vacances et puis faire des journées plus courtes. Enfin voilà. Donc moi je trouve que c'est pas du tout la même... l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ça pose la question de réforme dans l'éducation nationale en matière de rythme scolaire, mais pas tant de celle de la viabilité des devoirs à la maison.
Non mais disons qu'on est sur le... On est sur... Je sais pas si ça vous dit quelque chose, un spectacle qui s'appelle Inculture 2 de Franck Lepage.
Non.
Alyosha connaît.
Alyosha connaît. C'est une pépite. Hein. C'est une pépite. Donc inculture au pluriel. Deux. Le un, c'est dans le un, il s'occupe du ministère de la culture et dans le deux, il s'occupe du ministère de l'éducation nationale. Et donc en fait, on est dans un plan d'éducation nationale qui a été décidé à la suite de la Révolution française et qui est complètement caduque, qui est obsolète, qui est vieux, qui n'a plus pied avec la réalité, quoi. On est encore là-dedans parce que la France, manifestement, est encore vachement conservatrice. Et il va falloir vraiment, vraiment réformer ça assez rapidement parce que ça fait vraiment le nid, je trouve, hein, d'inégalité.
Oui, mais c'est...
Et de dégoût de plus en plus important de pas mal d'enfants qui ont des forts potentiels. Très très fort potentiel, mais qui ne se retrouve pas dans cette façon d'être éduqué, quoi.
Oui, c'est très vrai ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a, je trouve que c'est très vrai ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y a les systèmes étrangers donnent plus d'autonomie aux aux élèves dans le cadre des cours, mais ce que je dis, c'est que je vois pas en quoi ça remet en cause le principe des devoirs à la maison, parce que c'est de la responsabilité en plus et
c'est Tiedel qui est en terminale qui
et un entraînement au travail en plus et une curiosité en plus, donc je vois pas en quoi l'un remet en cause l'autre. Évidemment, il faudrait peut-être repenser que ce soit les programmes ou les rythmes scolaires, mais évidemment avec des journées plus courtes, enfin les étrangers ont beaucoup de devoirs à la maison.
Bah moi je voilà, c'est mon avis quand même quoi, que les devoirs à la maison, un, c'est une surcharge dans le cadre de notre éducation nationale française, hein, après les formats peuvent être visités, auquel cas on peut en reparler, mais n'empêche que après 6 heures de boulot voire 8 pour certaines journées chargées, le gamin, il en peut plus, quoi. Il a épuisé ses réserves de glucose. Il a juste envie de se détendre, mettre un dessin animé ou des vidéos YouTube ou jouer à LOL ou je sais pas quoi. Mais
nous aussi, on est en train d'épuiser nos réserves de glucose aussi. Qu'on a toujours pas mangé. Donc non, on va vous laisser.
Ouais,
on va vous remercier en tout cas. Vous remercier.
Ouais, merci
avec grand plaisir.
Et n'hésitez pas à nous rappeler.
Un culture 2. Hein.
Un culture 2.
Et... Matez ça, vous allez adorer, quoi.
D'accord. Ah, cool. On va suivre le conseil et on attend donc Frédéric, c'est ça?
C'est ça, Frédéric, ouais.
Le mois prochain, le 7 novembre.
Vous pouvez rappeler. Hein.
À partir de 12h10.
Okay,
merci.
Ça roule.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bonne journée, bon appétit.
Merci.
Bon, bah, nous étions vraiment sur le fil. Heureusement qu'on a débordé aujourd'hui, hein, parce qu'autrement, n'aurions pas eu d'auditeurs. Merci encore à ce Frédéric. Et puis, merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à rejoindre le clan de Frédéric. Il nous écoute dans la voiture, en mangeant, sans manger, chez vous, n'importe où, sur Internet, sur votre portable. Bref, éclatez-vous sur Radio Diwa. Les programmes continuent, la Radio des Diwa, la Radio des Diwa, et même au-delà, qui fête donc ses 5 ans sur 107.5 FM. Et rendez-vous pour CCC. Merci à toutes, merci à tous, chers lycéens. Le 7 décembre à 12h10, sous la neige ou pas, suspense, rendez-vous le 7 décembre.
Ouais. Les paris sont ouverts.
Hop, il arrive.
Au revoir.
Au revoir.